Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC.
Lundi 5 décembre,
l'info sur RMC.
Bonjour à tous, excellent réveil, bienvenue sur RMC et RMC Story, c'est l'heure du journal de Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Ça sera l'Angleterre, l'adversaire de la France en quart de finale. Mbappé redouté, devenu meilleur buteur du mondial hier. L'hôpital de Versailles toujours paralysé après une cyberattaque ce week-end. 6 patients graves ont dû être transférés. À Cannes, cette décision divise. Un commerçant a perdu sa place sur le marché parce que son fils a commis une agression l'été dernier. Punition actée par la mairie.
Ce sera donc un choc France-Angleterre samedi en quart de finale.
RMC, Coupe du Monde 2022.
Les Anglais qui ont sorti le Sénégal 3-0 hier, un peu plus tôt, les Bleus écrasaient la Pologne 3-1. Euphorie dans les vestiaires après le match. Goût, le tube de gala en train de devenir l'hymne de la victoire pour les Bleus. Autre symbole à la une de la presse ce matin, on l'a vu partout. Kylian Mbappé sautant dans les bras d'Olivier Giroud, duo de la victoire, duo du record. Avec 52 buts, Giroud devient le meilleur buteur de l'équipe de France. Mbappé avec son doublé, celui de la Coupe du Monde, pour l'instant en tout cas. Jean Rességuier nous attend en direct depuis Doha. Jean, Kylian Mbappé, 5 buts en 4 matchs, ne compte clairement pas en rester là.
Oui, c'est un extraterrestre, dira Zielinski, le milieu de terrain polonais à la fin du match. C'est le meilleur attaquant du monde en ce moment. Et quand il dit cela, Didier Deschamps est très content de l'avoir dans son équipe. Déjà, passeur sur le but de Giroud. Il a aussi et surtout ce talent de buteur. Hier soir, il nettoie les deux lucarnes de Chesney, le gardien polonais. Un deuxième doublé dans ce mondial après le Danemark qui fait de lui, avant le quart de finale, le meilleur buteur de la compétition. Il est tout simplement en train de basculer dans la catégorie des géants parce qu'aujourd'hui, le monde entier s'émerveille de son talent, comme pour Messi et Cristiano Ronaldo à une certaine époque. Mon objectif est de gagner la Coupe du Monde, a martelé Mbappé hier soir devant les médias après le match. Que Dieu le préserve, comme disent souvent les Anglais, au moins jusqu'à samedi.
J'aurais essayé envoyé spécial RMC à Doha. Et cette performance, ça rassure les supporters français, un peu moins les Anglais. Rencontré par Martin Bourdin, envoyé spécial RMC à Doha.
Il y avait certes encore beaucoup de confiance côté français hier soir, des supporters pas impressionnés par l'Angleterre.
Franchement, je pense qu'on peut les péter.
Mais pour la première fois, il y avait aussi un peu plus de retenue dans les propos de certains.
L'Angleterre, ils ont une belle génération aussi, une belle équipe. C'est le rêve, c'est une belle affiche, une grosse rivalité. Donc je pense qu'on a on part avec un petit avantage, mais il ne faut pas les sous-estimer les Anglais.
Sauf que côté anglais, malgré le bonheur de la qualif, je pense que la France va passer. L'équipe de France fait peur. J'ai très peur de Mbappé, on va avoir du mal. J'ai de l'espoir, mais votre attaque est beaucoup plus forte que notre défense.
Ça fait peur. Je ne sais pas comment la défense va gérer Mbappé et la puissance offensive de la France.
Mais si Rob s'inquiète pour samedi, c'est plus par réflexe qu'à cause de l'équipe de France.
C'est notre histoire à chaque tournoi. On a l'habitude d'avoir le cœur brisé, donc on espère le meilleur, mais on se prépare pour le pire.
Se préparer pour le pire, ce n'est pas vraiment l'état d'esprit des Français.
On a peur de personne.
Et si pour les Anglais, les fans des Bleus, eux, n'ont pas vraiment l'intention de rentrer à la maison les mains vides.
France-Angleterre, ça sera samedi à 20h, match à suivre en direct sur RMC. Les huitièmes de finale continuent aujourd'hui, 16h Japon-Croatie, 20h le retour de Neymar remis de sa blessure à la cheville droite, il affrontera avec le Brésil la Corée du Sud. Des nouvelles d'ailleurs de la légende Pelé, hospitalisé depuis mardi pour une infection pulmonaire. Son état de santé ne présente aucun risque. Sa famille a fait taire les rumeurs lors d'un entretien avec une chaîne brésilienne hier. Il est 7h04 sur RMC, un nouveau centre hospitalier, celui de Versailles, toujours paralysé par une cyberattaque d'ampleur. Deux hôpitaux et une maison de retraite ciblés par des pirates ce week-end. Conséquence, des ordinateurs à l'arrêt. 3000 soignants travaillent très concrètement avec du papier et des crayons. Un plan blanc a du coup été déclenché pour réorganiser les services, limiter l'accueil. 6 patients graves ont été transférés, a expliqué le ministre de la Santé François Braun sur place hier.
Bien entendu, les patients qui se présentent aux urgences continuent à être pris en charge. Les professionnels de santé se sont organisés pour assurer la continuité, la sécurité des soins. Les machines, d'une façon générale, fonctionnent. Ce qui ne fonctionne pas, c'est la mise en réseau de ces machines. Il faut plus de monde pour surveiller des patients dans un service de réanimation, par exemple. Là où vous avez peut-être 6 lits avec les alarmes, ces tracés cardiaques qui sont reportés sur un seul écran de surveillance, eh bien là, il faut quasi une personne devant chaque chambre pour surveiller l'écran.
Et une plainte a été déposée hier par l'hôpital. On en vient à cette polémique à Cannes. Un commerçant exclu du marché car son fils a commis une agression. Son emplacement lui a été tout simplement retiré. L'été dernier, son fils de 14 ans avait agressé une femme âgée pour lui voler son sac à main. L'explication de la mairie, chacun est responsable de ses enfants et doit rendre des comptes. Bettina de Guglielmo pour RMC.
Entre les étals du marché cannois de la Boca, cette décision ne fait pas l'unanimité.
Je ne connais pas le papa, mais est-ce qu'il est responsable de l'éducation de son fils? Je me pose des questions en ce moment.
Ça, je ne suis pas d'accord là-dessus. Il n'y a pas de raison, le père n'est pas complètement responsable.
Mais la mairie estime au contraire que chacun est responsable de son enfant. Un avis partagé par Christophe Chausset, président de l'association des commerçants de Cannes-Ouest.
Ce gamin, il a quand même 14 ans. En arriver à frapper une grand-mère, il faut être vraiment très mal éduqué. Hein. Je ne vois pas un gamin bien élevé le faire. À partir du moment où on a une place sur un marché comme ça, il faut être exemplaire.
Mais punir quelqu'un pour des faits commis par son enfant est disproportionné selon l'avocat du père, Maître Guesguez.
Quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'on va bannir l'ensemble de la famille de la ville alors que ce père travaille depuis 22 ans sur le marché et n'a jamais rencontré aucune difficulté? Il va y avoir cette question des dommages et intérêts qu'il va falloir verser auprès de cette grand-mère qui a été blessée et on empêche en même temps le père de travailler. Ça n'a absolument aucun sens.
L'avocat va saisir le tribunal administratif de Nice qui décidera si oui ou non cette mesure est justifiée.
La réforme des retraites, une réforme indispensable, a martelé le président de la République ce week-end. À 10 jours de la présentation officielle, les syndicats, eux, organisent la riposte et se réunissent aujourd'hui, Marion Gauthier.
J'ai l'impression que là, c'est un bulldozer. Donc oui, il va falloir être dans la rue. Oui.
Il était déjà dans la rue en 2019. Frédéric continue de suivre les débats autour de cette réforme. Son journal sous le bras, le quinquagénaire s'inquiète de sa retraite. Quelques années à tenir encore.
Pour l'instant, 10 ans et j'espère pas 15. La plupart des gens qui ont plus de 55 ans, qui arrivent au chômage, on ne les embauche plus. Et on nous explique qu'on va reporter l'âge de la retraite. Donc à un moment donné, c'est quelque chose qui va pas.
Ça fait 40 ans que ça dure. La retraite, on en parle tout le temps.
Comme beaucoup, Jean-Pierre explique sa lassitude et ses réserves sur une éventuelle mobilisation.
Il faut être pragmatique. 62, 63, 64, il n'y a plus d'oseille, il n'y a plus de fric. Donc il faut rallonger. Parce que les jeunes, ils s'en sortiront pas sinon.
Rallonger, inconcevable pour ceux qui ont des métiers pénibles. Sentiment d'injustice pour Joël, 59 ans, toute une carrière d'infirmière anesthésiste.
Je compte les années qui me restent et les mois qui me restent. Je travaille le jour, la nuit, le week-end. Les conditions se dégradent. Et en plus, la réforme des retraites vient nous mettre un coup de marteau en plus sur la tête. Elle ne doit pas passer.
La mère de famille assure qu'elle n'a pas l'habitude de manifester, mais répondra à l'appel des syndicats.
Nicolas Sarkozy de retour à la barre. Le procès en appel de l'affaire dite des écoutes s'ouvre ce matin devant le tribunal de Paris. Condamné en première instance à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, l'ancien président de la République sera rejugé avec à ses côtés son avocat et ami Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, qu'ils sont soupçonnés d'avoir corrompu. Un chiffre à présent, 78 millions d'euros, c'est la récolte à l'issue du week-end de Téléthon à la télévision, soit 5 millions de plus qu'en 2021 pour la recherche contre les maladies rares. Objectif maintenant, inverser la courbe des dons en baisse depuis plusieurs années. Et la bonne nouvelle, c'est que le compteur n'est pas tout à fait arrêté, donc c'est encore possible. Vous pouvez encore donner jusqu'à vendredi au 36-37.
Au 36-37 pour le Téléthon. Merci Marguerite pour ce journal. Il est 7h08, RMC pour vous.
RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous avec Élise Dangean cette semaine. Bonjour Élise. Ce matin, vous venez en aide à Brice, qui est un étudiant boursier. C'est son père qui vous a écrit à l'adresse RMC pour vous, @rmc.fr.
Un papa inquiet pour son fils Brice, 19 ans, en école d'ingénieur, qui doit désormais, entre deux cours, relancer sans cesse le CROUS. Vous savez, c'est le service des bourses. Et pour cause, sa sœur aînée, elle aussi étudiante, et quasiment tous ses amis boursiers ont touché la prime inflation, mais pas lui.
100 euros pour un boursier, un étudiant boursier, c'est beaucoup, c'est une grande somme. Personnellement, ça représente mon budget alimentaire du midi pendant 3 mois. Bah forcément, du coup, je me restreins, je dépense le moins possible. Le midi, je mange à chaque fois au CROUS, je mange pas ailleurs. Mais en communiquant avec le CROUS, ouais, ils ont pas l'air de s'en préoccuper tellement. Donc forcément, ça m'insupporte un peu. Je pense qu'ils se rendent pas compte que les étudiants, 100 euros, c'est pas rien.
Cette aide, mise en place par le gouvernement, est destinée aux plus précaires et aux étudiants boursiers. Les versements ont commencé le 15 septembre dernier. Brice est bien éligible à cette prime, mais toujours rien sur son compte bancaire.
Et ce que vous nous révélez ce matin, Élise, c'est que le cas de Brice est loin d'être un cas isolé.
Oui, c'est d'abord un agent du Crous de Versailles qui l'a confié à notre auditeur. Nous avons donc mené l'enquête avec Marilyn Ottman et en effet, il y a des trous dans la raquette. Cette aide, elle est versée par deux organismes, la Caisse d'allocation familiale pour les étudiants qui perçoivent les aides au logement et le Crous pour les autres, mais il y a eu des dysfonctionnements dans le transfert des données entre les deux, nous explique Bénédicte Depersin qui pilote le dispositif du Crous.
Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas utiliser le numéro de sécurité sociale des étudiants. Donc les échanges de données se font sur la base des noms et prénoms des étudiants bénéficiaires chez l'autre opérateur. Et pour peu qu'il y ait une différence d'orthographe, un trait d'union, un accent, l'algorithme du coup plante et de ce fait l'étudiant est mis en anomalie, ce qui nécessite du coup une reprise manuelle par les gestionnaires des Crous.
Résultat aujourd'hui, et c'est une information RMC que l'on vous révèle ce matin, près de 1500 étudiants boursiers attendent toujours leur aide. Mais le Crous nous assure qu'il a accéléré le traitement de ces dossiers. Ils ont tous été mis en paiement, nous dit-on.
Et y compris celui de Brice, notre auditeur ?
Oui, le cabinet de la directrice du Crous de Versailles s'en est occupé personnellement. Brice va donc recevoir sa prime inflation d'ici une semaine.
Et on est soulagé pour lui. Merci Élise. RMC pour vous, @rmc.fr, vous connaissez le chemin.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Épidémie de grippe, de Covid, de bronchiolite et désormais une attaque informatique. Franchement, est-ce que c'était le moment ? L'hôpital André Mignot dans les Yvelines, 700 patients est complètement paralysé depuis samedi. Richard Delpierre est dans ce studio, bonjour. Vous êtes en charge du conseil de surveillance de l'hôpital. Vous avez passé le week-end sur le terrain et vous êtes le témoin du jour dans un instant.
RMC, Apolline Matin,
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13, bon réveil.
Le témoin RMC.
Le témoin RMC, c'est vous, Richard Delpierre. Bonjour. Vous êtes le maire du Chesnay-Roquincourt, c'est dans les Yvelines, et vous êtes co-président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Versailles. Ce centre, il a été victime d'une attaque informatique samedi soir. C'est un très gros hôpital. Il y a 700 patients. Il y a 3000 personnels soignants. Les serveurs informatiques sont attaqués. Est-ce qu'ils sont toujours hors service au moment où on se parle?
Il y a près de 3/4 des serveurs qui sont hors service aujourd'hui. Ça n'empêche pas l'hôpital de fonctionner, mais forcément, ça ralentit les opérations.
Le ministre de la Santé s'est rendu sur place hier soir, vous y étiez. Il a dit que l'attaque avait été détectée suffisamment tôt, que ça aurait pu être pire. Est-ce qu'on a une idée de qui fait ça et pourquoi ?
Non, l'enquête est évidemment en cours, elle est à la main de la gendarmerie, mais je crois qu'on est en face en fait d'une nouvelle manière de faire la guerre. C'est pas une attaque isolée, c'est pas une opération d'un ou deux hackers, c'est quelque chose de délibéré, de la même nature que ce que l'hôpital de Corbeil-Essonne a eu à vivre au mois d'août. Ça nous dit des choses sur la nécessité de protéger nos équipements vitaux, et les équipements de santé, mais pas que. Mais on est en face de quelque chose de délibéré, de ciblé. C'est pas le fruit du hasard.
Délibéré, ciblé, sans objectif d'argent. L'objectif n'est
non,
pas celui-là.
Il y a une demande de rançon, mais je crois pas que ce soit le sujet. De toute façon, bien évidemment, on ne paiera pas la rançon. Et puis, les dégâts sont là. On n'est pas en train de demander une rançon en contrepartie d'une non-attaque. L'attaque a eu lieu. En fait, c'est pas le sujet.
Et si vous payez, il remettrait en service ou même pas ?
On ne paiera pas de toute façon.
Vous ne paierez pas, c'est et pas comment vous vous débrouillez du coup pour rétablir la situation ?
Comme à chaque fois sur ce genre de cyberattaque, on va remonter le moment où on a identifié l'arrivée du virus et on va remettre surtout en place en parallèle d'autres systèmes qui permettent d'avoir l'assurance qu'à aucun moment on ne fait prendre de risque aux patients parce que c'est évidemment la priorité absolue. L'hôpital, vous l'avez dit, tourne. Tous les patients qui sont à l'hôpital sont en sécurité et tous ceux dont on estimait qu'ils ne pouvaient pas rester en sécurité ont été évacués. Les deux ministres l'ont indiqué hier. Il y a 6 patients, dont 3 nouveau-nés, qui sont partis sur d'autres établissements de santé parce qu'on ne voulait pas prendre le risque qu'à un moment le virus se propage et vienne attaquer des systèmes de santé qui mettraient en péril la vie des patients les plus fragiles.
Et on parle de virus informatique, évidemment. Tout ça est d'ailleurs assez sidérant parce qu'on se dit dans une période, on est au mois de décembre, avec des épidémies très importantes et le virus qui soudain met encore plus la pagaille là-dedans, c'est un virus informatique. Richard Delpierre, vous nous le dites, il y a eu 6 patients donc qui ont été évacués vers d'autres hôpitaux. Au moment où on se parle, les patients qui sont à l'hôpital de Versailles sont pris en charge suffisamment bien. Il n'y a pas de risque dans les heures, dans les jours qui viennent.
Aucun. Évidemment, tous les personnels de santé sont parfaitement adaptés très rapidement, on l'a dit hier, en mode papier-crayon, leur méthode de travail. On a renforcé les équipes. Globalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'avant, on disposait de systèmes de surveillance qui permettaient à un soignant de surveiller plusieurs patients. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc, on a adapté la capacité d'accueil de l'hôpital à ce que les soignants pouvaient donner. Et donc, en face de chaque malade, il y a un soignant. Pour la faire simple.
Ça veut dire que ceux qui ont été évacués, c'était vraiment les plus critiques.
Oui.
Mais est-ce que ça veut dire aussi que ceux qui aujourd'hui devraient rentrer à l'hôpital vont être réorientés?
C'est probable. C'est probable. Évidemment, l'un des sujets, puisqu'on est lundi matin, donc c'est la reprise de l'activité normale à l'hôpital, on va réguler les flux pour ne pas laisser rentrer des gens qui mettraient trop sous tension les équipes ou qui ne seraient pas en situation d'être bien accueillis. Alors évidemment, il y a les rendez-vous programmé, hein, le Covid nous a appris à les décaler, à les planifier. Et puis pour tout ce qui est du système des urgences, et c'était vraiment la priorité des équipes hier, c'était de reventiler au maximum en fonction des capacités d'accueil du tout le tissu hospitalier francilien, privé et public, tous ceux qui seraient arrivés vers un très gros centre d'urgence, puisque l'hôpital André Mignot est un des gros centres d'urgence de l'Ouest.
Pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire quoi? Si vous habitez dans le coin de Versailles et que vous avez une urgence, est-ce qu'on peut venir aux urgences de l'hôpital ou est-ce que il faut en priorité aller ailleurs?
Le message est qu'évidemment, comme on l'a fait pendant le Covid et on appelle à la solidarité tous les acteurs, c'est d'abord la médecine de ville. Ensuite, le 15, qui réoriente vers les établissements. Et si vraiment, évidemment, vous êtes en situation d'urgence vitale devant l'hôpital, comme tous les hôpitaux, on vous accueillera. Mais vous l'avez compris, l'hôpital tourne au ralenti. Et donc, quand on est en situation d'urgence, il faut mieux aller vers des hôpitaux capables de vous accueillir. C'est le boulot du 15 qui le fait très bien. C'est le boulot des SAMU. Toutes les équipes sont complètement briefées. Et tous les établissements franciliens savent...
Donc, on passe par le 15 pour pouvoir être orienté vraiment vers le...
On commence par son médecin de ville.
Médecin de ville, 15... Et ensuite, urgence. Vous aviez déjà eu des attaques informatiques?
L'hôpital a subi plusieurs attaques ces derniers mois, comme malheureusement d'autres hôpitaux. Il s'en est défendu, donc ça ne veut pas dire qu'on était sans défense. Ça veut dire que les attaquants augmentent très rapidement leur niveau d'attaque. Mais oui, il y a eu plusieurs attaques contre l'hôpital ces derniers mois. Et évidemment, ce qui s'est passé à Corbeil a donné lieu à un retour d'expérience important. Et donc... Et depuis le mois d'août.
Corbeil-Essonne, ça s'est terminé comment? C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé au début, mais progressivement, ils ont réussi à retrouver leur capacité informatique.
Oui,
mais c'était quand même de très, très grande ampleur. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des stigmates?
Oui, absolument. On n'est pas revenu à la situation normale à Corbeil-Essonne. Ça donne une idée de la profondeur de temps de la crise que nous aurons à gérer. On sait qu'il y a eu plusieurs semaines avant que les urgences réouvrent à Corbeil-Essonne. Et à l'heure où on se parle, on n'est pas revenu à une situation nominale. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine pour permettre aux équipes de restaurer intégralement l'environnement informatique.
Ça veut dire que potentiellement, il n'y aura pas d'urgence à Versailles à Noël?
C'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure.
C'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure. Richard Delpierre, merci d'être venu dans ce studio. Vous qui êtes donc le maire du Chesnay-Roquencourt dans les Yvelines et puis co-président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Versailles. Et vous nous le dites, cette attaque, elle est délibérée et c'est une véritable démonstration de puissance, une nouvelle façon de faire la guerre. Ceux qui nous écoutent, notez bien qu'il faut passer par le médecin traitant ou le 15 si vous habitez dans la région des Yvelines. Et 7h19.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans 20 minutes, le plus rock des consultants foot, Eric Dimeco, sera avec nous pour débriefer la qualification des Bleus en quart de finale. Il nous dira aussi si l'Angleterre peut vraiment nous chahuter. Rendez-vous avec vous tous au 32-16. Ce sera à 7h40. Mais avant cela, il y aura l'œil d'Emmanuel Le Chypre sur les cours du baril de pétrole. Et puis Arnaud Demange qui pirate le 32-16.
Apolline Matin.
L'indiscret RMC.
Les indiscrets, le rendez-vous du service politique d'RMC. Bonjour Hélène Terzian.
Bonjour Apolline.
Hélène, le président assistera ce soir à un CNR, un Conseil National de la Refondation. CNR consacré à l'éducation. Le ministre Papendiaï sera là, un ministre qui est pourtant loin de chercher la lumière.
Et la séquence d'aujourd'hui ne devrait pas trop le déstabiliser. Quand le président est là, on le sait, il est en première ligne. Les ministres s'expriment peu. Rassurez-vous, Papendiaï échangera bien sûr avec les enseignants, les syndicats, les parents d'élèves présents, mais à huis clos. C'est ça la méthode Papendiaï. Son leitmotiv, construire avec la communauté éducative, nous dit son entourage, entendez, sans faire trop de bruit. Et ça semble marcher pour les syndicats. La relation est fluide, il amène de l'apaisement à l'école, nous dit un député Renaissance. Même à Matignon, on salue son boulot de fond énorme, pas forcément visible.
Et justement, Hélène, certains au sein de l'exécutif le trouvent presque absent.
Un ministre va même jusqu'à regretter un manque d'énergie. Il ne le juge pas assez offensif sur les questions de laïcité à l'école. Quand un prof se fait embêter, dit-il, il faut aller dans l'école avec les caméras et les micros. Réplique chez Papendiaï. Sur la méthode d'abord, il est soucieux de la qualité de sa parole et de sa pertinence. Il ne vient pas du sérail politique. Quant au fond, on répond pas de complaisance. On brandit le plan laïcité laïcité mise en place le mois dernier et le pointage mensuel des atteintes à la laïcité. Il devrait d'ailleurs être en baisse pour le mois de novembre.
Et Pape Ndiaye qui est invité chaque jour pour le 8h30, mais qui jusqu'à présent a toujours décliné. Il est 7h21.
RMC, Apolline Matin.
7h22, c'est l'heure d'Emmanuel de Chypre.
Le chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires, Emmanuel, entre l'entrée en vigueur de l'embargo européen aujourd'hui et puis la décision du G7 de plafonner son prix, les taux se resserrent autour du pétrole russe.
Oui, effectivement, ce lundi entre en vigueur l'embargo européen sur le pétrole arrivant en Europe par voie maritime et ça représente quand même les deux tiers du pétrole européen acheté à Moscou. Embargo déjà en place aux États-Unis et au Canada. Et puis le deuxième tour de vis, c'est la décision des pays du G7, donc des sept grandes puissances occidentales, de plafonner le prix du pétrole acheté à la Russie par les pays qui ne pratiquent pas l'embargo, c'est-à-dire en gros les pays émergents, la Chine et l'Inde. Bien évidemment, tout ça à $60 pour limiter les recettes pétrolières de Moscou, évidemment. L'idée, c'est de fixer un prix assez bas pour réduire les ressources financières russes, mais pas trop bas pour que la Russie continue quand même à vendre du pétrole, tout ça pour ne pas créer de nouveaux chocs sur les cours.
Et concrètement, comment les pays occidentaux peuvent imposer au monde entier ce plafonnement ?
Bah oui, parce qu'on se dit, les pays du G7, déjà, ils n'importent plus de pétrole russe. À quoi ça sert de fixer un plafond ? Eh bien, leur objectif, effectivement, c'est d'inciter les gros consommateurs, comme l'Inde, comme la Chine, d'arrêter d'acheter du pétrole russe. Comment ils font ? Eh bien, c'est parce qu'au-delà de ce plafond de $60, il sera interdit pour les entreprises occidentales de fournir les services qui permettent le transport maritime du pétrole, le fret, l'assurance, etc. Or, les pays occidentaux fournissent actuellement 90% des cargaisons mondiales et l'Europe est un acteur majeur du fret maritime. C'est ça qui est visé.
Est-ce qu'il faut s'attendre, du coup, Emmanuel, à ce qu'il y ait une envolée du prix du pétrole ?
Alors, c'est pas sûr, heureusement. D'abord parce que les cours du pétrole russe évoluent aujourd'hui autour de $65 le baril, donc pas très loin des $60 fixés comme plafond. Ça veut dire que, finalement, cet embargo, il aura un impact limité à court terme, ce plafonnement. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est quand même que l'OPEP, hier, a décidé, malgré la très forte baisse des prix du pétrole au cours des dernières semaines, eh bien, de ne pas réduire sa production. Vous savez, quand elle réduit sa production, forcément,
si elle coupe le robinet, évidemment, ça fait monter les prix.
Ça fait remonter les prix parce qu'elle a peur justement des effets incertains de cette décision du G7, de l'embargo européen sur le pétrole. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que certes, ça va sans doute freiner la baisse des prix qu'on aurait pu espérer, mais la flambée, une nouvelle explosion des cours du pétrole.
Pour le moment, c'est pas dans les tuyaux. Exploser les prix. Il est 7h25 et Arnaud Demanche nous rejoint.
RMC, Apolline Matin.
Attention.
Demanche pirate, le 32-16.
Bonjour.
Bonjour Arnaud.
Vous êtes bien
passé par le standard, ça va très bien. Ce qui fait réagir ce matin, c'est la qualification, évidemment.
Et oui, Apolline, ce matin, la France est en liesse. C'est la joie dans les chaumières. On va défiler sur les champs, puisque vous l'avez dit, qualification d'Éric Ciotti et Bruno Retailleau pour le second tour du vote pour la présidence des Républicains. C'est l'événement, c'est le séisme politique de l'histoire de ce pays. Claude de Menton nous dit, j'étais au dépouillement, tous les adhérents ont voté, succès total, ils se sont tous déplacés, tous les sept. Vous voyez, c'est majeur, un torrent de réactions. Philippe de Villiers nous a laissé, Éric Ciotti est intéressant. Mais j'ai une préférence pour le Vendéen Bruno Retailleau qui peut assurer la conquête de nouveaux territoires à droite. Taillot et Retailleau. Il est motivé. Éric Ciotti et Bruno Retailleau se positionnent d'ailleurs chacun pour la présidentielle. Benjamin Duhamel, le brillant éditorialiste politique de 19 ans que nous avons ici à RMC BFM, a bien voulu interrompre sa partie de Pokémon écarlate pour nous livrer son analyse au 32-16. Ciotti, Retailleau, le match est lancé. Lequel des deux aura le privilège de se prendre un vieux 4% au premier tour en 2027? Le suspense est total. Pardon, excusez-moi. Laurent Wauquiez a annoncé soutenir. Bisous Benjamin, oui. On t'embrasse, on t'aime. Laurent Wauquiez a annoncé soutenir Éric Ciotti et Gaël Perdriot, le maire de Saint-Étienne, nous a laissé. Laurent Wauquiez est pédophile. Voilà, vous le savez pas, mais il est pédophile. Et Éric Ciotti, il a joué tout nu dans des petits films amateurs allemands où on le voit lécher une chèvre.
On reconnaît Gaël Perdriot, hein, à la voir, évidemment.
Mais
parce
oui, tout de suite. mais je ne suis pas imitateur, j'évoque. Donc, Eric Ciotti joue dans des petits films amateurs allemands et il boit le lait d'une vache directement aux mamelles et Léon slip. Et je vous le dis, et j'ai la vidéo. Il faut qu'il se calme, Gaël Perdriau. Voilà pour l'autre qualification. On en parle à 8h20. On en parle tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure.
Évidemment. À tout à l'heure, Arnaud Demange, 7h20, 8h20 sur RMC. Et pour l'heure, il est 7h27. On se retrouve dans un instant pour la météo de journal. 7h30, tout pile sur RMC et RMC Story. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nicolas Sarkozy, de retour devant la justice, l'ancien président rejugé dans l'affaire des écoutes téléphoniques. Aujourd'hui, il risque jusqu'à 10 ans de prison. Plus d'éoliennes en France. Voilà l'idée d'un projet de loi sur les énergies renouvelables qui arrive à l'Assemblée aujourd'hui. Et puis le rendez-vous est pris. France-Angleterre sera samedi, quart de finale du Mondial. En attendant, la ville de Bondy célèbre Kylian Mbappé, double buteur hier.
Et on reparle ce matin de l'affaire des écoutes.
Oui, Nicolas Sarkozy sera rejugé cet après-midi pour cette affaire dans laquelle il est soupçonné d'avoir cherché à soudoyer le juge Azibert en échange d'un poste à Monaco. Il avait déjà été condamné à 3 ans de prison, dont un enferme l'année dernière, pour cette affaire dans laquelle Guillaume Bier, chef du service police-justice à RMC, dans laquelle il clame son innocence.
Un dossier vide, un désert de preuves, c'est l'argument martelé par la défense de Nicolas Sarkozy. En première instance, il y a tout juste 2 ans, l'ancien président s'était vigoureusement défendu, n'hésitant pas à rejouer à la barre certaines écoutes que le tribunal n'avait pas réussi à diffuser à l'audience. Ces fameux enregistrements sur une ligne clandestine au nom de Paul Bismuth, le socle du dossier, les preuves d'un pacte de corruption, estime le parquet national financier. La promesse d'un coup de pouce pour la carrière de Gilbert Azibert en échange d'indiscrétions sur une procédure en cours. Même si rien n'a été concrétisé au final, la simple proposition d'une contrepartie est condamnable selon la loi. 10 ans de prison, c'est la peine théoriquement encourue par Nicolas Sarkozy.
Et pendant que l'ancien président règle ses démêlés judiciaires, la droite se choisit un nouveau patron. Ce sera un duel Éric Ciotti-Bruno Retailleau le week-end prochain au second tour de l'élection du président des Républicains. Les 91 000 militants ont placé Éric Ciotti en tête au premier tour, 42% devant Bruno Retailleau à 34%. En pleine crise de l'énergie, les députés se lancent à partir d'aujourd'hui dans l'examen du projet de loi sur les énergies renouvelables, avec pour ambition d'accélérer le déploiement de l'éolien en France en simplifiant les procédures administratives. On n'y est pas du tout aujourd'hui, à peine 19% de l'électricité produite en France provient du renouvelable, l'objectif c'est à 23%. Il y a donc du travail et parmi le texte propose de développer l'agrivoltaïque, ce qui consiste à mettre des panneaux photovoltaïques par-dessus les champs, par-dessus les cultures pour augmenter la production d'électricité et aussi assurer un complément de revenus aux agriculteurs, comme ici près de Toulouse avec Jean-Wilf Forquès pour RMC.
Dans ses champs, Jean-François Lamassé produit de l'orge et du blé, une activité qui lui rapporte seulement 900 euros par mois. Pour augmenter ses revenus, il a installé des panneaux photovoltaïques sur sa toiture.
C'est un hangar qui fait 800 mètres carrés, qui me permet de stocker mon matériel, de l'engrais et de produire de l'énergie. Dans un second temps, un complément de revenus.
Un complément qui pourrait lui rapporter 600 euros par mois à la retraite. Celui qui est également président de la FDSEA espère que cette loi va favoriser la concrétisation de projets.
Il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui aimeraient faire des hangars et qui ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut avoir de l'énergie ou on ne veut pas avoir d'énergie ?
Le projet de loi permet d'accélérer les réalisations, mais pas question de gagner plus avec des panneaux qu'avec les champs ou le bétail, prévient la députée écologiste du secteur, Christine Arrighi.
L'agriculteur peut devenir électricien pour autant que cela maintienne ou développe son activité agricole. Nous ne devons pas, sous prétexte de production d'énergie, se retrouver avec des stérilisations de terres qui produiraient de l'énergie, mais ne produiraient plus ce qui nous permet de nous nourrir.
Chaque année en France, selon des chiffres rapportés par Terre de Liens, ce sont déjà près de 50 000 hectares de terres qui disparaissent.
La réforme des retraites est indispensable. Le gouvernement l'a martelé tout le week-end, décidé à aller jusqu'au bout, malgré l'opposition des syndicats qui vont se réunir aujourd'hui pour préparer la riposte. Retour à la normale attendu dès ce matin à la SNCF. 3 TGV sur 4 selon la compagnie. On en est au 4e jour de grève des contrôleurs. Il y avait seulement 60% des trains ce week-end. Des négociations sont prévues dans la semaine pour peut-être trouver un accord. Ce n'est que le début d'un mois de décembre qui s'annonce compliqué avec un appel à la grève unitaire mercredi. Pourquoi mercredi ? Parce que ce sera le jour du début des négociations annuelles obligatoires.
RMC Coupe du Monde 2022.
Kylian Mbappé et Olivier Giroud, tiens, tous les deux, ils sont à la une de quasiment tous les journaux ce matin. Il y a cette photo où ils se prennent dans les bras. 52e but en bleu, record pour Olivier Giroud hier après-midi et performance exceptionnelle de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et d'une passe décisive contre la Pologne en 8e de finale. Il bat même Kylian Mbappé le record de précocité de Pelé. Il tutoie les sommets et ses plus fidèles supporters sont extrêmement fiers chez lui à Bondy. C'est ce que nous dit Arnaud Valadon pour RMC.
À deux pas du stade Léo Lagrange, 30 enfants du club et leurs éducateurs se sont installés devant les écrans géants à l'atelier QG de l'AS Bondy. Ali, 9 ans, a apprécié le match de son illustre aîné.
Il court vite comme toujours et j'aime bien ses deux buts. Mbappé présente Bondy, on est content de Mbappé.
Mohamed Lamine, lui aussi buteur en moins de 10 ans ce week-end, est confiant pour la suite.
Kylian Mbappé, il est en pleine forme, il est fort maintenant. J'espère qu'il veut gagner la Coupe du Monde.
Laurent Van Der Ginst est bénévole au club depuis 33 ans. En tant que responsable des débutants, il a vu Kylian Mbappé éclore.
Kylian, c'est Kylian. Il n'y en a pas 36, il y en a un seul. Hein. C'est le top des tops. Il n'y a pas photo. Il explose un peu plus. Hein. Déjà, il était déjà rapide, mais encore plus vite. C'est un éclair, là.
Samedi prochain, le club remet ça avec les Benjamins âgés de 7 et 8 ans, autorisés à veiller plus tard pour admirer le prodige bondinois.
Merci le bondinois.
On aura donc France-Angleterre.
Merci le bondinois, oui.
France-Angleterre en quart de finale, ce sera samedi soir à 20h. Ce sera le premier d'ailleurs de l'histoire France-Angleterre dans un match éliminatoire. Les Anglais qui ont facilement battu le Sénégal 3-0 hier soir. Les Anglais qui vont perdre leur attaquant Raheem Sterling. Il va rentrer à Londres où sa famille a été victime d'un violent cambriolage commis par des hommes armés. C'est ce que raconte ce matin la presse anglaise. Et ce soir, on va peut-être revoir Neymar. C'est pas sûr à 100%, mais il s'est entraîné ces derniers jours. Les nouvelles étaient plutôt rassurantes. Sa cheville douloureuse allait mieux et son sélectionneur espère pouvoir le faire jouer ce soir en 8e de finale contre la Corée du Sud.
Sur Neymar, et je savais que la question serait posée, s'il s'entraîne normalement, il jouera demain. Il s'entraînera, s'il est apte, il jouera. Les 10 autres joueurs, je ne vous dirai pas.
Alors quand il dit demain, c'est aujourd'hui, vous l'avez compris, les deux matchs du jour, je vous les rappelle sur RMC. Brésil, Corée du Sud, donc ce soir 20h, et Croatie, Japon, ça ce sera dans l'après-midi à 16h.
Et puis le Quintet Quentin, c'est à Vincennes.
À 13h50, RMC Découverte, le 2, le 9, les pronostics ce matin de la Dream Team des courses RMC, le 2 en favori Falcon d'Espace, le 9 en outsider, fameux Saxe.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 7h36 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
France-Angleterre, ce sera samedi à 20h et on en parle dès maintenant avec Eric Dimeco. Bonjour Eric.
Bonjour Apolline.
Est-ce que les Bleus sont toujours favoris ?
Ah, ils font partie des favoris, oui, bien sûr. Pas grand favori, mais oui.
Quand on est
un quart de finale et qu'on a Mbappé dans son équipe, voire Griezmann, voire Giroud, oui, on est favori. Oui.
Allez, on se retrouve dans un instant avec vous au 32-16.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h39 sur RMC, on parle foot.
RMC, Coupe du Monde de la FIFA 2022.
Mais quelle fierté, mais quel bonheur. Salut Eric, Eric Dimeco, consultant RMC. Très très beau match hier, il faut quand même le dire, avec une France majestueuse. Sauf que les Anglais aussi, ils ont fait un très bon match.
Oui, oui. Alors, France majestueuse, en tout cas, grosse efficacité offensive. On a un joueur hors norme, on a d'autres joueurs exceptionnels. L'adversité était moyenne. J'ai quelques réserves et j'attends avec impatience justement de rencontrer les Anglais parce que j'ai quelques réserves sur notre côté.
Alors, sur
défensif. Ben, je nous ai trouvé fébrile un long moment et surtout contre une adversité très 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 moyenne. Et donc là, du coup, quand on regarde, puisqu'on va parler des Anglais obligatoirement qui se sont qualifiés, quand je vois la force offensive de l'Angleterre, ça va être un véritable test. Et je pense même que Didier n'a pas la réponse sur notre niveau défensif en réalité contre une équipe.
Les Anglais, c'était chirurgical. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que c'était d'une précision, d'une netteté. C'est-à-dire qu'à un moment, quand ils vont vers le but, il n'y a rien qui peut les arrêter.
Oui, mais parce que ils sont des joueurs hors normes, mais on le sait. Alors, on découvre un petit milieu de terrain très jeune qui a une grosse force de percussion. Mais les Kane, les Foden, les Saka, on les connaît. Donc, c'est les trois qui.
Oui, mais les trois noms que tu viens de prononcer, c'est moins fort que Mbappé, Dembélé, Giroud. Enfin, j'ai les Anglais ont plus peur que nous ce matin, non?
Les Anglais ont sûrement peur de Kylian Mbappé.
Moi, ah oui. Giroud, pas des deux Dembélé, autres Griezmann, tout ça, ça leur fait
peur. Ah ouais, non, ils ont peur comme ils ont peur des attaquants qu'ils rencontrent généralement en première ligue dans leur championnat tous les week-ends. Par contre, on a un joueur hors norme et qui risque de devenir d'ici peu extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va battre tous les records de buts en sélection, de buts à la Coupe du Monde, de buts.
Pour l'instant, 5 buts depuis le début du mondial, 9 buts en Coupe du Monde, une pointe de vitesse à 35 km/h et une frappe pointée à 113 13 km/h sur son second but hier soir.
Oui, alors ces histoires de kilomètres-heure, ça impressionne tout le monde, mais je suis sûr que Kylian Mbappé court plus vite que 35 km/h. Hein. C'est-à-dire, sur un terrain, il va moins vite, obligatoirement, parce qu'il y a un ballon qui gêne. Si on le met sur une piste d'athlétisme, d'après moi, il doit courir plus vite.
Donc, en fait, on est là tous à être impressionnés.
Et des frappes de balles à plus de 47 km/h, il y a plein de joueurs qui les ont.
Est-ce qu'on peut dire ce matin, Eric, c'est le meilleur joueur du monde actuellement?
Ah, ben bah oui.
Ce matin, il n'y a personne.
Ah, oui, non, mais là, déjà, depuis quelques années, on se rend compte qu'il est très fort en club et qu'il a porté notamment le PSG la saison dernière. Bah, tu es bien placé pour le savoir, Charles, puisque tu
le problème, c'est qu'au PSG, ça se finit souvent en quart, à peu près. Ce serait bien que ça aille un peu plus loin avec les Bleus.
Oui, non, mais ça, on ne le découvre pas. Par contre, on a vraiment l'impression qu'il est en mission sur cette Coupe du Monde pour marquer les esprits, c'est-à-dire montrer enfin qu'il est au-dessus des Messi, des Neymar, des Ronaldo, Messi, Ronaldo qui sont en fin de course, Neymar finalement qu'on attendait et qui n'arrive pas. Enfin, je dis pas qu'il arrive pas parce que c'est un très très grand joueur, mais Mbappé est investi d'une mission suprême qui est de montrer à tout le monde qu'il est le meilleur et qui va amener l'équipe de France à lui tout seul jusqu'au titre. Et quand on voit ce qu'il fait depuis le début de la compétition.
Et Giroud, qui entre aussi dans l'histoire, 52 buts, meilleur buteur des Bleus.
Bah, Giroud, c'est.
Pour un remplaçant, moi, je dis, c'est pas mal quand même.
Oui, non, mais c'est pas un remplaçable puisque c'est le champion du monde, mais c'est vrai qu'on avait un doute sur sa présence puisque Didier nous avait montré sur ses dernières sélections que soit il y avait Benzema, et soit quand Benzema n'était pas là, il y avait Giroud. Mais les deux ensemble, il ne les prendrait pas.
C'était pas son premier choix, quoi.
C'est ça, mais
il y a deux mois, il n'était pas censé aller.
Il y avait un gros débat, puisque lui revendiquait même le fait d'être en remplaçant.
J'avoue qu'on en oublie un peu Benzema. C'est-à-dire qu'hier, on se dit pas, il manque quelque chose à cette équipe.
Les absents, malheureusement, ont souvent tort. On se posera la question avec Benzema si jamais ça tourne mal en quart ou en demi. Mais quand tu vas au bout, malheureusement, les absents ont tort. Giroud, moi, pour moi, c'est un exemple. Voilà, si j'avais un gamin qui joue au foot, tu peux pas lui montrer Mbappé. Mbappé, c'est un talentueux, donc c'est un don du ciel. Tu l'as pas. Par contre, si tu es un bon joueur, regarde ce que fait Giroud, parce que il y a à 24 ans, il joue à Tours en deuxième division. Il s'est forgé dans l'adversité, toujours
c'est un laborieux,
sur
quoi,
lui.
Ça a bossé quoi.
Laborieux non. Quand tu es à ce niveau-là, tu peux pas dire ça. Par contre, c'est quelqu'un qui a un gros mental, qui se remet toujours en question, à qui on n'a rien donné et qui est toujours allé tout chercher quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un exemple pour les gamins.
Il y a Jules qui est avec nous depuis la Haute-Corse. Bonjour Jules.
Oui, bonjour.
Ça va?
Ça va.
Alors inquiet ou confiant pour samedi?
Non, je pense qu'il faut être confiant, pas non plus prendre les angles de haut, parce que voilà, c'est notre premier gros test, comme l'a dit Eric. Premier test parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer avec cette équipe, on a eu beaucoup de blessés. Donc on va voir ce que ça donnera contre les Anglais. Je pense qu'eux aussi, ils ont peur de nous.
Charles, depuis ce matin, il martèle que les Anglais ont peur de nous.
Eh oui, mais j'ai entendu, il a dit qu'ils sont friables. C'est Emmanuel qui a dit ça.
Ouais, c'est ça. Emmanuel, il a dit que c'était les Sénégalais qui étaient friables. Mais on va essayer de rendre les Anglais friables.
Ce sera l'équipe qui prendra l'ascendant le plus tôt, parce que hier, les Anglais, ils auraient pu être menés, nous aussi, hier, hein, d'ailleurs, par la Pologne.
Ouais, le début, ouais.
C'est ça, il concède aussi des occasions, ce sera au plus efficace.
Mais là où tu as raison, Jules, c'est que le scénario du match va être important. Un peu à l'image des Anglais, si on ouvre le score, on devient jouable. Parce que l'adversaire est obligé de sortir et parce qu'il y a des espaces. Et Mbappé se régale, on l'a vu encore une fois hier. Et c'est pour ça que... alors, c'est pas une lapalissade de dire que le premier qui marque gagne, parce que c'est pas toujours le cas dans le football. Par contre, sur ce match-là, l'ouverture du score va être importante parce que les Anglais qui marquent en premier... là, ça commence à devenir compliqué.
Il y a quelque chose aussi du niveau du mental, c'est-à-dire que le scénario, c'est aussi ça, quoi.
Oui,
c'est à un moment, se mettre dans un état d'esprit.
Bah, sur un match à élimination directe, bien sûr qu'il y a plein de petits signes dans un match qu'il faut que ça se passe mal ou non. Mais là, c'est vrai que vu la configuration des deux équipes, vu la force offensive, notamment en transition des deux équipes, celui qui va marquer en premier aura une grande.
Restez avec nous, Jules. Eric, il y a aussi cette question quand même de l'ambiance dans l'équipe. On se souvient quand même qu'à l'Euro, honnêtement, on sentait que c'était assez tendu. Il n'y avait pas une ambiance de groupe. Là, les images, elles étaient très fortes hier. Les images, évidemment, de l'accolade, voire même de l'embrassade. Quand Kylian Mbappé court dans les bras de Giroud, il y a les images du vestiaire. Ça, je voudrais qu'on les regarde à nouveau sur RMC Story, qu'on les écoute. Écoutez-moi ça. Ouais. C'est magnifique. Ça, ouais, ça, on sent, On sent cette atmosphère, ouais, elle est très importante quand même pour le collectif.
Joueurs, c'est quand même les meilleurs moments. Hein.
Bah
c'est,
ouais.
C'est, ça me donne des frissons d'ailleurs de voir ça. Mais bon, après, quand on gagne et qu'on est content,
c'est facile de dire que tout va bien.
Et qu'on soit déçu quand on perd, c'est un peu... Oui. Non, il y a des signes par contre, Apolline, là où vous avez raison, c'est sur l'Euro, ça commence très mal. Ça commence avec une sortie de Giroud qui fâche Mbappé, qui veut aller à la conférence de presse, Didier Deschamps l'empêche, on sent qu'il rumine ça. Alors que là, il y a un geste...
Quand on se souvient de ça quand même, de cette concurrence, un peu de... Voilà, où ils se regardaient en chien de fusil. Là, honnêtement, c'était magnifique de les voir hier.
Alors, Didier avait fait une erreur sur l'Euro, c'est-à-dire que le retour de Benzema, d'après moi, est un petit peu trop proche de la compétition et surtout, ça surprend même les joueurs de la sélection, je pense. Il doit la préparer mieux que ça. Il doit préparer le retour de Benzema mieux que ça et je pense que ça a posé des problèmes.
En chien de faïence, hein, j'ai dit chien de fusil. Oui. À un moment, bon, c'est l'enthousiasme.
Ce sera repris dans le Moscato Show, c'est pas grave. André, si tu nous écoutes, on a l'image.
Il y a Patrice qui est là aussi, depuis Saint-Paul-de-Vence. Bonjour Patrice.
Bonjour Apolline.
Patrice, vous ne voudriez pas oublier ceux qui sont un peu moins dans la lumière, mais qui sont indispensables?
Oui, déjà un gros bisou à Eric et à Charles que j'adore, et puis Emmanuel et les autres. Nicolas,
ah d'accord. Et moi j'ai le droit à un bisou, Patrice, ou pas?
Il préfère les barbus. Je suis désolé. On va se laisser pousser la barbe.
Patrice, alors vous pensiez aussi à ceux qui sont plus humbles.
Alors, moi, il y a deux joueurs qu'on cite un peu, mais qu'on cite pas assez. Alors, il y a Rabiot qui fait un travail extraordinaire. Il était un peu clivant par le passé parce qu'il a eu des comportements un peu contestés. Mais il fait un travail extraordinaire en défense, il se met au service de l'équipe, etc. Il a marqué un but lors du premier match, mais là, je crois qu'il est indispensable à l'équipe. Et puis, il y a un deuxième joueur que je trouve, je l'appelle le petit Mbappé. C'est Dembélé sur l'aile droite. Il est extraordinaire ce joueur. Ouais. Peut-être que dans quelques années on appellera Mbappé 2, mais c'est un joueur merveilleux. Ouais. Je crois qu'avec les trois attaquants qu'on cite en permanence, Hugo Lloris et ces deux joueurs-là plus les autres, on va au bout, on y va et on y va à fond.
Et on y va à fond. Ça c'est un grand bonheur. Et puis c'est des moments à partager. C'est vrai qu'à nouveau quand même extrêmement collectif. Je voudrais juste dire un mot à Jules parce que Jules il est étudiant. Jules, le fait que les matchs soient comme ça le week-end là quand même samedi après-midi, dimanche après-midi et samedi soir, c'est aussi... Non, mais il y a un moment collectif de tous les âges. Vous, Jules, vous avez 18 ans, c'est ça?
Oui, là, on l'a vu avec des amis, voilà.
Ouais, c'est les amis, c'est la famille, c'est à nouveau encore, des moments partagés, quoi.
On a eu de la chance de ne pas avoir de match à 11h aussi, quand même.
Ouais, ça, c'est vrai.
Parce que des fois, il y a des matchs à 11h. La France, non, heureusement. Là, on sera 20h, sera plus simple samedi.
Qu'est-ce qu'ils font d'ici samedi, Eric?
Ils vont faire du frais dans un premier temps, soigner les bobos. Et puis ensuite, petit à petit, ils vont rentrer dans la préparation. Didier va peut-être leur montrer des images des Anglais, même si on les connaît par cœur. Petit à petit, ils vont rentrer dans ce match-là. Apparemment, là, on fait que du frais, on fait pas de séance.
Je voulais juste rajouter un nom à la liste qu'a faite Patrice des travailleurs de l'ombre, c'est Antoine Griezmann.
Non, alors, c'est pas être travailleur de l'ombre, c'est un phénomène pour moi.
Ouais.
Pour moi, ce garçon-là, alors je m'écharpe tous les après-midi avec notre ami Jérôme Rotten sur son cas, parce que moi je dis que c'est un grand joueur, qu'on a beaucoup de chance de l'avoir, qu'il est toujours dans le collectif, que tout ce qu'il fait c'est dans le sens du jeu, que même quand il est un peu moins bien dans le jeu, il travaille tellement qu'il en devient précieux, et je suis sûr que Didier Deschamps, avant, bon là il met Mbappé en premier, mais pendant longtemps il mettait Griezmann en premier.
Et il en prend pas ombrage. Enfin, je veux dire, c'est ça.
Au contraire, lui il est content d'être dans l'ombre d'Mbappé. Ouais. Je suis pas sûr que la médiatisation d'Mbappé à outrance plairait à Griezmann, qui a l'air d'être
une forme de discrétion, d'humilité, pour reprendre encore le mot de Patrice. Patrice, Jules, Eric, bien sûr, et nous tous très émus, vraiment avec des moments d'émotion. Hein, Eric, des moments d'émotion pour cette équipe qu'on suit avec grand enthousiasme. Le programme du jour, suite des huitièmes de finale à suivre, Japon-Croatie à 16h. Le Brésil face à la Corée, ce sera à 20h et c'est évidemment à vivre en direct et en intégralité sur RMC, RMC radio officielle de la Coupe du Monde. Il est 7h50.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans un instant, on part en Iran. L'Iran qui annonce la suppression de la police des mœurs après 3 mois de révolte populaire. Est-ce un tournant? Les explications de Nicolas Poincaré, c'est à suivre sur RMC.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles. Et on reste dans le vestiaire des Bleus.
Et on l'a entend donc comme après la victoire face au Danemark. C'est le tube des années 90, Freed from Desire, qui a enflammé le vestiaire. Vous avez reconnu la voix de la chanteuse italienne, Gala, dont le titre est devenu en fait un classique du sport. Et oui, le 15 de France de rugby la chante déjà, tout comme les supporters de foot de l'Irlande du Nord, ceux de plusieurs clubs britanniques. Et donc aujourd'hui, c'est notre équipe de foot qui s'approprie cette chanson, ce qui ravit la chanteuse. Elle a donné une interview à nos confrères du Parisien dans laquelle elle se dit prête à aller au Qatar pour chanter son titre aux côtés des Bleus. Bon, pour l'instant, elle n'a pas reçu d'invitation officielle de la part de la Fédé, mais qui sait, si les Bleus vont au bout, peut-être que Gala fera le voyage pour les soutenir.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53, c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas. Le régime iranien semble reculer face aux manifestations qui secouent le pays depuis presque 3 mois. L'abolition de la police des mœurs a été annoncée ce week-end.
Oui, la suppression de cette fameuse police des mœurs a été annoncée par le procureur général du pays samedi. Elle n'a pas été confirmée depuis, mais pas démentie non plus. Et le même procureur a aussi annoncé que le Parlement préparait une modification de la loi sur le voile. Cela ressemble donc bien effectivement à un vrai premier recul du régime des mollahs face à la révolution en cours. Parce que cette police des mœurs est devenue le symbole de l'oppression du pouvoir religieux. C'est une force qui compte environ 70 000 hommes et femmes que les Iraniens surnomment les corbeaux. On l'appelle aussi la police de la moralité, ou bien de son vrai nom, les patrouilles de la guidance islamique. Ces policiers sont chargés de faire respecter l'obligation pour les femmes de porter un voile islamique qui couvre entièrement leurs cheveux, mais ils font aussi respecter l'interdiction de porter des couleurs vives, des manteaux qui ne couvrent pas les genoux, ou bien encore des jeans troués. Les hommes peuvent eux aussi être verbalisés, même si ça arrive moins souvent, s'ils portent des bijoux ou bien des pantalons trop courts. Et c'est encore cette police des mœurs qui fait appliquer l'interdiction absolue pour les familles en Iran d'avoir un chien à la maison.
Et c'est donc cette force de police qui est à l'origine de la contestation actuelle.
Oui, puisque c'était bien des membres de cette guidance islamique qui avait arrêté le 13 septembre la jeune Misha Amani, qui était morte 3 jours plus tard des coups reçus au commissariat. Et aussitôt, des milliers de femmes étaient descendues dans les rues en criant « Femme, vie, liberté » et en osant s'afficher sans le voile. On a parlé de la première révolution féministe de l'histoire. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'il y a 40 ans, la question du voile avait déjà été centrale dans la révolution islamique. Le régime du Shah d'Iran, pro-occidental et dictatorial, interdisait le port du tchador. C'était quasiment le seul pays au monde à le faire avec la Turquie ultra-laïque de l'époque. Et en 1979, des centaines de milliers de femmes sont descendues dans la rue avec des voiles noires sur la tête pour revendiquer le droit de porter le tchador. Finalement, le Shah, l'empereur perse, a été renversé. L'ayatollah Khomeini est revenu de son exil en France et à peine au pouvoir, il a fait voter une loi le 7 mars 79 pour instaurer l'obligation donc de porter le voile.
Mais déjà à l'époque, les Iraniennes s'étaient révoltées.
Oui, parce que passer d'un seul coup de l'interdiction du port du voile à l'obligation de le porter, eh bien ce n'était pas ce que voulaient ces femmes. Elles avaient donc de nouveau manifesté contre les mollahs qui avaient reculé dans un premier temps, en tout cas. Et ce n'est finalement que 4 ans plus tard que l'obligation de porter le voile a été instaurée. C'était alors le premier pays au monde à le faire. Partout ailleurs dans le monde musulman, le port du voile était une tradition, pas une obligation légale. Ensuite, en 2006, le très conservateur président Ahmadinejad avait créé la police des mœurs pour faire absolument respecter cette obligation. Et depuis 15 ans, eh bien, des millions de femmes ont dû au mieux payer des amendes, souvent passer quelques heures à se faire réprimander dans les commissariats, parfois être emprisonnées. La loi prévoyait jusqu'à 1 an de prison pour un voile mal porté. C'est donc cette loi qui pourrait être abolie dans les 15 jours qui viennent. Le paradoxe, c'est que les manifestantes de 2022 auraient donc obtenu de ne plus porter le tchador, alors que leur grand-mère, les manifestantes de 1979, s'étaient battues pour le droit de le porter.
Est-ce que ce recul du régime pourrait mettre un terme à la contestation ?
Alors, on peut sérieusement en douter, parce que la liberté de sortir tête nue, c'était une revendication importante, mais pas la seule. La colère s'était cristallisée contre la police des mœurs, mais c'est en réalité tout le régime religieux qui est mis en cause. Dès les premiers jours de la contestation, les manifestants et les manifestantes, surtout, ont crié « Abat le dictateur », c'est-à-dire le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Tant qu'il sera là, la révolution devrait se poursuivre. Et en attendant, les Iraniens sont appelés à un grand mouvement de grève générale qui commence aujourd'hui.
Les explications de Nicolas Poincaré. Il est 7h57. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.